et Utopia. Partout en France, des jeunes rêvent d'autosuffisance, imaginent un monde où l'argent ne serait plus roi, et s'appliquent à mettre leurs idées en pratique. En Saône-et-Loire, Eutopia fait partie de ces lieux d'expérimentation. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. En arrivant au bout d'un chemin de terre, s'offre à nous un monde alternatif. Celui d'Eutopia, une communauté végane fondée par une poignée d'idéalistes venus bâtir le monde de demain. Eutopia fait partie de ces projets collectifs innovants. Nous sommes ici dans un écosystème peuplé d'êtres qui apprennent et expérimentent en harmonie avec la nature. Pierre et Benjamin partagent avec nous leur vision du lieu. Ils posent une réflexion sur l'économie du don, sur le vivre ensemble, sur les tâches communes et les évolutions du projet. L'étape suivante, l'ouverture d'un café associatif dans le proche village de Crona. Vivre différemment, oui, mais garder le lien avec le monde extérieur reste essentiel. Benjamin et Pierre sont là pour nous définir Eutopia.
Moi, je dirais que c'est un lieu d'expérimentation.
Ouais,
c'est un éco-hameau pour moi.
Mais on vit très proches les uns les unes des autres. On est, je pense que par rapport à d'autres projets qu'on connaît, on est assez communautaire. Une communauté...
Intentionnelle,
voilà. Et un lieu d'expérimentation, c'est clair. C'est la base de notre projet, c'est expérimenter dans tous les domaines que l'on peut trouver pertinents. Surtout, on sent qu'il y a un besoin d'évolution. Que ce soit dans la manière de cultiver, la manière d'être ensemble, la manière de construire, la manière de voir l'art, la manière de voir l'autre, la manière de voir le genre, la manière de voir l'argent. Donc c'est expérimenter d'autres manières de se relier au monde et à ce qu'il compose.
Donc cette notion d'expérimentation, on va revenir un peu à la genèse du projet. Donc on est sur le lieu du nom Eutopia. On revient quelques années en arrière. Avant d'arriver ici, qu'est-ce qui se passait dans les esprits des uns et des autres ?
Donc le projet a commencé véritablement 2020, il y a 7 ans. On était 4 à l'époque, mais maintenant les deux autres ne sont plus là. Et donc l'idée, c'était de trouver un espace. On avait organisé beaucoup de campements temporaires, gratuits, basés sur le don, vegan, où les personnes venaient et partageaient des savoirs, des connaissances, les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et ça, c'est des campements. On en organisait beaucoup quand on était au Mexique avec Yasmine, qui est ma compagne et qui est mexicaine. C'était vraiment génial. Sur 3-4 jours, on voyait ce que ça pouvait provoquer chez les personnes. Et il y a eu le désir à un moment donné d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de construire quelque chose de pérenne. Alors, un endroit où on pourrait organiser ça, mais de manière permanente. Et aussi, en parallèle, vu qu'à l'époque, on vivait sans argent, cette idée aussi de pouvoir planter des arbres et avoir un jardin, de pouvoir aussi être assez autonome, de ne pas toujours dépendre de ce qu'on trouve dans la poubelle. Donc il y avait l'idée de trouver cet espace-là, qui était vraiment centré dès le départ sur cette idée d'économie du don, qui était un peu le pilier le plus fort dans le sens où il n'y a pas d'échange monétaire. On ne veut pas rejeter l'argent en soi, mais d'essayer de rejeter l'idée de valeur. Donc aussi, autant que c'est pas l'argent qui va définir si on peut avoir un lieu ou pas, mais c'est aussi, on vient et on donne ce qu'on peut donner, que ce soit au niveau de notre énergie, de notre temps, de toutes les ressources qu'on a à notre disposition. L'autre point fort, c'était le véganisme, qui est un mot un peu... valise, bateau, mais on va dire le respect du vivant, en essayant vraiment d'aller à cette idée antispécisme. Au final, l'être humain n'est pas au-dessus d'une autre espèce. On est plutôt ensemble, on fait partie de la nature, il n'y a pas la nature et l'être humain. Et donc d'avoir une notion de respect un peu plus haute de la vie des autres habitants autour de nous, et c'est-à-dire pas forcément on peut accepter on va tuer des insectes des fois, ou il va se passer des choses comme ça, on va couper un ver de terre quand on travaille le jardin. Mais en tout cas, de ne pas les asservir. De ne pas les considérer comme des denrées, comme un stock qui est à notre disposition. Il y avait le côté de l'éducation libre qui était très fort. On n'avait pas encore d'enfants à l'époque, mais il y en avait dans le groupe, le premier groupe qui s'est formé, et puis on voulait avoir un enfant. Donc cette idée qui n'était pas contre l'école, mais plutôt pour l'idée d'avoir une éducation qui soit libre. Moi, j'ai été très influencé par Paulo Freire, qui est un Brésilien, qui a écrit plusieurs livres et qui disait que personne ne peut éduquer personne. On apprend ensemble par l'intermédiaire du monde. Donc cette idée qu'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas non plus de lieu pour apprendre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de professeur, que l'apprentissage se fait partout et surtout il se fait entre tous, petits, grands, etc. D'autres valeurs, forcément l'écologie qui regroupe énormément de choses, mais cette idée de vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Donc, qui est une citation de Gandhi qui est moins connue que l'autre, mais avec cette idée, on essaye que notre mode de vie fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui doivent être sacrifiées.
Avec la dimension du collectif.
Et la dimension du collectif, toujours de vivre ensemble, bah, il y avait cette idée de vivre en famille et aussi cette vision dès le départ d'avoir un endroit avec plusieurs maisons, plusieurs habitats et que si j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à marcher 100 mètres. C'est retrouver un peu ce village, cette tribu. Enfin, je sais que c'est un peu cette idée qu'on avait à l'époque dans les villages. Il y avait cette sorte d'autonomie qui n'était pas personnelle, mais qui était dans tout le village. Où en fait, si j'ai besoin de quelque chose, marche un peu et je l'ai. Et tous ensemble, on arrive à trouver un équilibre pour subvenir à nos besoins, qu'ils soient matériels ou non. Et donc, il y avait cette envie-là, ouais.
Dans une diversité de personnes qui ont des besoins tout aussi divers et variés. Donc, ouais, je pense que c'est là où aussi ça vient... Je pense supporter la vision au niveau de l'apprentissage mutuel où face à la différence de l'autre, on peut aller plus loin parce que ça vient chercher en nous quelque chose peut-être lié à la façon dont on a vécu, à la façon dont on a grandi avec nos parents. Et souvent, on se dit ici que nos engueulades... Ça fait miroir à ce vécu-là, à ces expériences.
Quand on a cette vision, cette envie de créer un projet avec une dimension, donc le véganisme, l'écologie, l'habitat sain, le jardin, la communication, maintenant il faut trouver le lieu pour pouvoir incarner cette utopie. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on a cette vision et qu'on a peut-être la contrainte du lieu, l'accès au foncier qui n'est pas forcément évident? Ça prend du temps. Voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette aventure pour tous ceux qui ont envie peut-être aussi d'aller vers cette direction-là, parce qu'on est quand même dans un monde en transition profonde et beaucoup de gens rêvent de ça, rêvent d'amorcer leur transition mais savent pas forcément par quel bout commencer. Donc je pense qu'une émission radio peut aussi avoir l'intérêt de donner des clés, peut-être des clés de compréhension ou des clés pour pouvoir pas perdre trop de temps et avancer plus rapidement.
Oui, à fond. Donc nous, en 2013, on a lancé le projet L'Idée. On a commencé par créer un site internet. C'est vrai que c'est toujours le conseil que je donne aujourd'hui. D'abord, se rendre visible, parce qu'en fait, on est très nombreux à vouloir faire quelque chose. Et on a besoin de se rassembler parfois avant de chercher des choses. Des fois, il y a des solutions qui viennent comme ça. Et au départ, on ne voulait pas acheter de lieu, avec cette idée aussi que le foncier ne devrait pas être un foncier et que du coup, il y a suffisamment de terre pour tous. Donc, on voulait trouver des arrangements, voire avec des fermiers ou des propriétaires. On voulait qu'on nous donne un terrain, qu'on donne un terrain au projet. Ça a été très difficile. Pendant 2 ans et demi, on a cherché ça. On s'est rendu compte qu'en France, on ne peut pas obtenir de terrain gratuitement. Pour que quelqu'un te donne un terrain, il faut qu'il paye 60% de la valeur du terrain aux impôts, sauf si tu fais partie de sa famille. Donc en fait, le don comme ça n'est pas possible, sauf si c'est une association reconnue d'utilité publique. Mais ça, ce n'est pas juste une association reconnue d'utilité publique. Il faut qu'elle ait un certain nombre d'adhérents. Un chiffre d'affaires aussi. Il y a plusieurs conditions à remplir sur internet, ce qui fait que quand on fait une association, elle n'est pas d'utilité publique, c'est pas nous qui le décidons. Donc on pouvait pas recevoir de terrain gratuitement. Deuxième option, on s'est dit on trouve des propriétaires et on voit si on fait un arrangement. Donc on s'est tourné naturellement vers des fermiers. On a eu des contacts justement encore une fois avec le site internet. On a fait tourner, à l'époque il y avait Rue 89, c'était un journal assez cool sur internet, et du coup on a eu pas mal de contacts de personnes qui nous ont contactés. On a vu un premier fermier qui nous a proposé une dizaine d'hectares pour qu'on s'installe, qui était à côté de sa ferme, on pouvait donner un coup de main et tout. Ça s'est pas fait parce qu'on n'a pas réussi à obtenir le permis de construire, et aussi en fait il nous donnait pas vraiment les 10 hectares, il voulait nous les prêter. Faire un fermage, on appelle ça dans le milieu, donc une sorte de location à 3, 6 ou 9 ans, sans forcément de loyer, mais quand même une sorte de location, donc il y avait un peu cette incertitude. Donc on a décidé de partir, on a essayé avec un autre agriculteur qui lui était prêt à nous donner tout le lieu, mais après on a découvert qu'en fait il était poursuivi en justice par sa propre famille, parce que le lieu n'était pas vraiment à lui, donc là ça a été un peu catastrophique. Et là, après cette expérience, on avait un groupe... Il y a eu un premier groupe qui s'est un peu défait après la première histoire. Ensuite, on en a reconstitué un. Et quand on est arrivé chez ce deuxième paysan et qu'on a dû partir, on était avec Sandrine et Romane. Et là, on s'est dit, ça craint, ça marchera jamais cette idée d'être chez quelqu'un. Et Sandrine et Romane avaient un peu de sous de côté. Ils avaient chacun, je crois, 30 000 euros de côté. Enfin, Sandrine a vendu sa maison. Et avant de rejoindre le projet, parce qu'elle avait envie de vivre sans possession. Et donc du coup, elle avait ses sous de côté, Romane avait un peu de sous de côté. Et donc ils ont dit, nous on a ça, on a réuni 60 000 euros. Nous on avait récupéré un peu d'argent grâce au livre. Et avec ces 60 000 euros, on s'est dit, on essaye de trouver un lieu pour ça maintenant. Et donc 60 000 euros, c'est beaucoup, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et c'est très peu pour ceux qui veulent acheter du foncier. C'est pour ça qu'on est en Saône-et-Loire aujourd'hui, un peu perdu au milieu de la France, parce qu'au début on voulait être dans le sud, vers Toulouse, vers Perpignan. Yasmine est mexicaine, on aime bien le soleil, et puis on aime beaucoup la région par là-bas. Mais du coup, avec 60 000 euros, on n'a pas grand-chose. Peut-être une grange et un demi-hectare, et pas forcément dans les meilleures conditions. Donc c'est ce qui nous a amené. Alors pareil, on avait encore un réseau. Nous, on s'est fait connaître sur Internet très fortement. C'est une option de faire travailler les réseaux sur Internet et d'avoir des gens qui nous aident. Il y a des personnes qui sont venues visiter ce lieu pour nous et qui nous ont dit « Ah, bah, vous pouvez venir là, c'est peut-être bien. » Je sais qu'une autre option, qui est peut-être celle que moi, je conseillerais le plus, c'est plutôt de choisir une région et de prendre une location, une petite maison dans un coin et déjà de commencer à créer le réseau en regardant toutes les annonces. Parce qu'en fait, dans toutes les régions où on va, il y a moyen de trouver... des propriétés, enfin toutes les régions, dans les régions du centre de la France principalement, mais il y a toujours moyen pour 50, 60 000 euros, voire 40 000 euros, de trouver un ou deux hectares avec un bâtiment. Et nous, c'est ce qu'on voulait. Donc ça aussi, en petite clé pour toutes les personnes qui veulent monter un projet, on conseille très, très, très fortement de trouver un lieu avec un bâti, si possible une maison, pas forcément, pas qu'une grange. Parce que la loi est quand même très complexe, c'est très difficile. On n'a pas le droit d'habiter en France sur un terrain qui n'est pas viabilisé. Au bout de 3 semaines, c'est du camping, et même si c'est chez nous, l'État a le droit de nous virer. Donc du coup, ouais, on conseille vraiment de trouver un lieu, mais avec une petite maison, pour au moins avoir une adresse, payer des impôts. Et quand on fait ça, en général, ils nous foutent la paix, quoi. On peut mettre sa yourte, on peut mettre des caravanes, et ça les dérange pas trop, parce qu'on paye des impôts, parce que, enfin voilà. Donc c'est vrai que je conseille ça, et je pense que c'est faisable, et ça peut éviter beaucoup de soucis. On a des amis qui ont dû partir d'un lieu. Il y a des projets qui ont commencé sur un lieu et qui ont juste complètement explosé parce que du coup, ils ne pouvaient pas construire et puis le préfet un jour décide d'enlever les yourtes. Donc ouais, on conseille ça, ouais, trouver un lieu. Donc nous, on a trouvé ce lieu en 2016. Une famille nous a dit « Ah ben nous, on habite à côté de Moulins. On peut chercher pour vous, peut-être qu'on vous rejoindra, on ne sait pas encore. »
Et donc la notion de propriété est donc importante en France, quoi. Si tu veux te lancer dans un projet, c'est vraiment important de passer par cette case et devenir propriétaire.
Je pense que c'est très rassurant. Je pense que ce n'est pas nécessaire et je souhaite que des personnes n'y arrivent pas. Mais pour nous, c'est très rassurant de savoir que les arbres qu'on plante, parce qu'on a aussi un projet de jardin-forêt, et c'est vrai que quand on se lance là-dedans, cette incertitude de savoir si dans 4-5 ans, peut-être qu'on ne pourra plus y être, c'est quand même difficile parce que des projets comme ceux-là, ben, c'est sur 20-30 ans minimum. Donc ça se discute parce qu'en fait, on n'est jamais propriétaire d'un terrain en France. On a un droit d'usage. Quand on achète un lieu, on a le droit d'usage, mais... tout ce qu'on y fait, en fait, si on réfléchit bien, c'est l'État qui décide, quoi.
Et ici, au niveau de la propriété, c'est l'association Vert de Terre, qui est fondatrice du projet Utopia, qui détient le bâtiment et la terre. Donc, on a des espaces personnels, mais il n'y a pas d'espace privé. Donc, et aussi, en fait, on fait un don pour accéder à cette association de 5000 euros pour participer à l'achat. Et ce don, on ne le récupère pas. Donc, l'association, tant qu'elle vit... à travers des membres qui se renouvellent, hein. C'est comme une entreprise, hein. C'est turnover, la moyenne d'âge 13 ans, en tout cas d'après Diana Leaf Christian, qui a écrit un bouquin sur les éco-communautés et éco-hameaux aux États-Unis. Et du coup, bah, voilà, cette association, elle détient tout, et donc le terrain en soi, théoriquement, il est hors spéculation foncière, quoi. Parce que du coup, l'association est censée rester là si elle vit, et que c'est ça, quoi, en fait. Si le projet marche, c'est que l'association va pouvoir se renouveler avec le temps. C'est un projet évolutif qui n'est pas figé du tout.
Donc la structure de base juridique, c'est le statut associatif qui a été choisi pour pouvoir acheter ce terrain et développer le projet qui va avec.
Ouais, ça c'est un choix. Beaucoup de projets comme ça choisissent plutôt des SCI, des sociétés civiles immobilières, ou de faire des achats avec différentes parts. C'est vrai que c'est une bonne option pour protéger l'individu. Comme ça, bah, si on investit de l'argent, bah, on sait qu'à un moment donné, si on s'en va, on pourra le récupérer. Et nous, on a fait le choix inverse. On ne voulait pas de gestion de capital. Et on voulait aussi être sûr que le projet Utopia survive aux membres, aux personnes à un moment donné. Donc du coup, si on part tous, bah, il faudrait que toutes les personnes qui ont donné 5000 euros dans le cours de l'histoire des Utopia, si toutes les personnes décident, sont d'accord pour vendre, eh ben on pourra vendre et chacun pourra récupérer ses parts. Mais on a le sentiment, enfin on espère bien qu'il y en a au moins une qui dira non. Donc a priori, ce lieu peut pas être vendu et sera forcément un lieu qui sera pour un projet, pour défendre des valeurs du projet et pas des individus.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
Ça y est, on a trouvé le lieu pour bâtir cette utopie. Et maintenant, il faut trouver les personnes pour pouvoir venir y habiter. Donc, comment est-ce qu'on constitue un collectif ?
Je crois qu'on ne peut pas trouver des personnes, mais il y a des personnes qui peuvent nous trouver. parce que nous, on a commencé à 25 au tout début avec l'idée. Ça a explosé, après on était 7. Ça a explosé à nouveau, on s'est retrouvés 4. Après, ça a explosé à nouveau, on a été 5. Et on a acheté le lieu à 5. Des 5, il y en a 3 qui sont partis. Il ne reste que Yasmine et moi de tout départ. Il y a Pierre qui est arrivé un an après, avec Juliette et Vincent, qui sont restés 2 ans et qui sont partis l'année dernière. Ils sont partis l'année dernière et quand ils sont partis, il y a Elsa, Thor, Elona et Liri qui sont entrés en même temps l'année dernière. Avant ça, il y a Lucie qui était venue dans le projet aussi, et qui est restée un an et demi et qui est partie. Donc ouais, comme disait Pierre, il y a un turnover assez consistant. Et au final, par exemple, nous, sur notre site, on organise des périodes de visite. 4 fois par an, il y a des personnes qui viennent pour une dizaine de jours. On a un festival. Au début, une semaine sur deux, des gens venaient sur le lieu. Et on s'était toujours dit, quand quelqu'un arrive, s'il y a un très bon feeling et que la personne cherche à s'intégrer dans un lieu comme ça et qu'on se sent bien, elle vient une semaine. Puis après, on lui dit, tu peux revenir à un autre moment. Puis elle va venir 2, 3 semaines, 1 mois. Et puis là, on voit comment on se sent. À la fin de cette période-là, on dit, écoute, comment tu te sens? Ça me botte vraiment, j'aimerais vraiment m'intégrer. On dit, reviens, on fixe une autre date. Donc la personne s'en va à nouveau et elle revient ensuite pour rester peut-être 6 mois ou 1 an pour voir. Et au bout de cette période qui se définit en groupe, elle peut décider de s'intégrer si on est tous, toutes d'accord. C'est consentement total. Et du coup, on ne va pas vraiment chercher, on n'essaye pas de trouver des résidents. C'est plutôt des personnes qui nous contactent, qui veulent rendre visite, qui sont curieuses. Et quand il y a un feeling qui passe, qui a un bon ressenti, ça peut aller plus loin.
Avec une envie de faire évoluer ce collectif, de le faire grandir, ou est-ce qu'il y a un nombre maximum limité? Comment vous voyez la suite, l'évolution de l'association, de ce lieu et Utopia?
C'est assez libre. Je pense qu'on s'est dit qu'on essaimerait lorsqu'il y aurait trop de monde. Mais trop de monde, c'est pas encore bien défini. On a imaginé pouvoir être... pouvoir accueillir encore quelques personnes ici et donc être 12, 15. Après, il y a avec les aléas de la vie, ça bouge tellement fort. C'est ça, le turnover qui se passe ici comme dans d'autres endroits, c'est quoi? C'est des chemins de vie, des parcours, des envies, des désirs, des rencontres.
Et par quoi est motivé ce turnover? Parce que quand on arrive ici, on a l'impression d'arriver un peu à Zion. C'est un petit paradis avec une éthique absolument parfaite, impeccable, pas d'alcool, pas de tabac. Enfin, c'est vraiment une vie saine. On est là pour avancer sur soi, sur la conscience, cette notion de la conscience et du respect de l'environnement. Donc ça, je crois qu'on adhère tous. On signe tous à la charte, en fait, quoi. Donc comment est-ce qu'on explique ce turnover?
Donc c'est nous le problème. Je pense qu'il y a énormément de raisons possibles. Je sais qu'Antoine, après, il a rencontré, il est tombé amoureux. Il y en a pour certains. Je pense que de manière globale, il y a la vie qu'on imagine, une sorte d'idéal auquel on tient très fort, qu'on a construit dans notre tête. Alors des fois, on l'a construit au fil d'expérience. On est dans un autre écolieu, dans des endroits, et puis on dit « Ah oui, c'est cette vie-là que je veux ». Des fois, c'est juste dans notre tête. On est à Paris ou dans une ville, dans notre appartement, et on sait qu'on veut vivre comme ça. On le sait, c'est en nous. On a eu des personnes qui étaient 100% convaincues. Mais ça reste un idéal. Et ensuite, on arrive sur le lieu. Et ici, l'idéal, forcément, il est un peu tronqué. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites tout de suite. Genre, on aimerait avoir 0 emballage. On a encore des emballages. Et donc, c'est vrai que y a plein de choses qu'on arrive à respecter très fidèlement et d'autres... moins, notamment sur cette volonté de communication non violente, d'être dans la paix, dans la conscience, de chaque fois qu'il y a un souci, de toujours se rappeler que si je réagis, c'est quelque chose en moi. C'est pas facile au quotidien. De la même manière, sur cette vie en collectif, j'ai envie de faire des choses avec les autres, tout ça. Mais quand c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tout le temps, avec des repas collectifs, et dès que j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je demande à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tout est quand même collectif. Donc ça, tout de suite, on se dit « Ah oui, cet idéal, il est bien, mais dans l'expérience, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?» Donc il y a des personnes qui sont arrivées qui étaient pas forcément, c'est pas une question d'âge, mais en tout cas qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience là-dedans, ou qui avaient beaucoup d'expérience, au bout d'un moment se disent aussi OK, il y a des choses qui me plaisent énormément, mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que moi j'ai envie ou ce n'est pas ça que je m'imaginais. Il y a des personnes qui sont venues là en étant convaincues, mais vraiment convaincues depuis qu'elles étaient petites, qu'elles voulaient vivre dans un éco-village, dans une caravane, dans la nature, de cette manière et de cette manière, et qui aujourd'hui se retrouvent en ville dans un appartement. Parce qu'en fait, elles se sont rendues compte après que peut-être le plus important, c'est de se sentir bien, d'un confort, de valoriser d'autres choses, pour l'instant en tout cas. Donc c'est ouais, cette confrontation entre l'idéal qu'on a dans la tête et la concrétisation, elle est... c'est assez délicat.
J'ai envie de m'intéresser un peu à la charte des valeurs, les différents points ici. Donc en regardant sur le site, qui est très bien fait, tu as effectivement différents points qui vont aussi bien dans du côté de la gouvernance, que du côté habitat, que du côté énergie, que du côté alimentation, du côté santé. Donc qui c'est qui peut me présenter un peu la charte, hein, l'idéologie ou la vision, le côté éthique, ouais.
La vision, elle est là, on peut la lire.
Oui. Ouais, allez, on va la lire. Ouais.
On s'est inspiré d'un écolieu qui s'appelle Sainte Camelle, Torrellona. On fait un truc là-bas, un stage où il parlait de l'importance de définir une vision. La vision, c'est l'endroit où on veut aller et il n'y a pas de compromis à faire. Il faut qu'on soit tous d'accord à fond. Et après, il y a les missions. Donc par exemple, nous, le véganisme, la permaculture, c'est des missions. C'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément tous à fond. Parce qu'on peut faire des compromis, parce qu'en fait, c'est pas trop important pour l'un ou pour l'autre. Par exemple, si, je sais pas, si Yasmine boit de l'alcool quand elle sort du lieu, pour moi, c'est OK. Ça, c'est une valeur sur le lieu, mais il n'y a pas de souci. On se met d'accord. Par contre, la vision, c'est celle où on ne peut pas faire de compromis.
Voilà, la vision de Eutopia est... Nous faisons partie d'un écosystème peuplé d'êtres qui apprennent et expérimentent en harmonie avec la nature. Chacun et chacune d'entre nous est consciente et responsable envers le monde du vivant et de ses ressources limitées. Dans la forêt, on coopère et nos échanges se font dans un climat de confiance. Par l'écoute de nos propres besoins et ceux des autres, nous apprenons l'amour et la paix. Nous grandissons ensemble et gardons l'équilibre par l'horizontalité et l'équité.
Ça commence par Eutopia est une forêt. Notre vision, c'est de se voir comme une forêt.
Pourquoi la forêt ? Parce que cette notion d'interaction ?
Oui, cette notion d'interaction, de diversité. Dans la forêt, il y a énormément de choses qui sont ensemble. Cette notion que chacun peut pousser à des rythmes différents, peut trouver des places différentes, mais dans un ensemble collectif. La forêt, c'est interdépendant. On ne peut pas faire quelque chose sans les autres. On est forcément ensemble. Mais avec nos différences, avec nos besoins différents, nos envies différentes, voilà.
Pourquoi de ce type de projet ? À quoi ça correspond comme besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit ?
Bon, y a sûrement plusieurs besoins. Ils sont tous peut-être un peu personnels au départ. Pour moi, je sens un besoin de connexion à mon environnement, de faire partie de la nature, de retrouver une place au sein de la nature. Besoin de prendre le temps d'être dans un système social, économique où en fait on n'est pas pressé par des choses à faire ou des choses à payer ou des choses à un besoin d'être en lien et on va dire un lien profond. Pour moi, il y a toujours ici le besoin de sentir que je suis besoin de grandir, de progresser dans une direction. Donc quand on vit ensemble, on est obligé, comme disait Pierre tout à l'heure, de faire face un peu à nos petits démons, aux choses que d'habitude on peut cacher chez nous. Et donc là, il y a ce besoin d'être en confrontation avec soi-même et avec l'autre pour se voir dans le miroir et s'accepter. Besoin de co-créer, de créer, de besoin de participer, de prendre part à un mouvement. Je pense qu'on sait qu'en ce moment, confinement ou pas, il y a cette transition qui est en marche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi le premier, enfin moi dans les premiers en tout cas, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de participer, de pas juste être passif. Donc il y a un besoin d'action. Et c'est vrai que quand on est dans des lieux comme ça, on se retrouve entre plusieurs personnes qui partagent ce besoin de faire quelque chose. Enfin, il y a plusieurs manières, plusieurs choses à faire, mais et donc ce besoin-là peut vraiment être répondu quand on se met à plusieurs, parce que seul on a toujours le sentiment de se sentir un peu isolé ou impuissant. Même à deux, à trois, et donc plus on arrive à s'entourer d'un collectif, et plus on arrive à se galvaniser nos forces, non, pour se dire ben on peut faire quelque chose, ça marche, ça a un impact, de se motiver et de se dire ben oui, ça sert à quelque chose.
Ben moi, les besoins qui m'ont amené ici, c'est de pouvoir expérimenter, c'est quoi habiter un territoire, parce que il y a le projet, il y a le lieu, mais il y a à l'échelle régionale, voilà, tous ces biotopes. Entre le Morvan de 900 mètres d'altitude, la plaine de la Loire, se faire une idée de ouais, c'est quoi vivre en vélo, à pied, même si on utilise la voiture. Enfin, l'idée c'est de ralentir. Donc, ça m'a amené à Eutopia pour plonger dans une région. Voilà. Et connaître en fait les espèces sauvages, c'est quoi manger les champignons du coin et c'est quoi cultiver les plantes qui pourraient pousser ici. Voilà.
Ça me ramène à la notion du paysan, cette notion de celui qui connaît son pays. Hein. Et on voit bien aujourd'hui dans l'inconscient collectif, il y a eu une époque, il y a encore 10, 15 ou 20 ans, paysan c'était une insulte. Dans les collèges, dans les lycées, c'était ça le paysan. Alors qu'en fait, non, c'est vraiment cette notion de connaissance du terroir, de ses écosystèmes. Et on revient de plus en plus vers ça parce qu'on se rend compte qu'on s'est un peu éloigné de cet essentiel. Une des réalités auxquelles on doit faire face quand on se lance dans ce type de projet, on en parlait un peu au début de cette émission, ça a été l'accès au foncier, donc une réalité économique qui était dans un premier temps de pouvoir lever un capital pour pouvoir acheter un terrain. Maintenant qu'on a ce lieu, comment est-ce que vous gérez au quotidien cette réalité économique ? Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir développer un modèle économique ou vraiment cette volonté d'avoir plus du temps ?
La réflexion est en cours. Dès le départ, le modèle économique, c'était l'économie du don, mais qui du coup est un modèle économique qui ne répond pas aux besoins concrets et matériels du lieu.
Donc, économie du don, définis-moi ce que c'est.
L'économie du don, c'est une économie qui est basée sur les ressources disponibles et les besoins connus. Donc, qui n'est pas fixé par un certain revenu ou une masse financière, mais plutôt, voici les besoins d'une personne ou d'un collectif. On regarde les ressources qui sont disponibles et on les distribue.
Un type de système d'échange local, comme le voisin a une pelleteuse, mais il a besoin de manœuvres pour cultiver dans son champ. Vous avez besoin d'une pelleteuse pour aller creuser un peu un trou pour planter un arbre. Donc, c'est ça aussi, cet échange de compétences, de connaissances et cet échange matériel.
Exactement. Juste en allant un peu au-delà de l'échange, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'échange sans contrepartie, c'est plutôt le don, ça va un petit peu plus loin, c'est « Ah bah tiens, on a besoin de paille », et il y a le paysan qui nous dit « Ah, moi j'ai de la paille, je vous en donne ». Et il a besoin de rien en échange parce qu'il n'a pas de besoin pour l'instant. Peut-être que plus tard, il aura besoin de notre aide, mais donc il nous la donne. Et nous, il y a des choses qu'on va donner parce qu'on peut les donner. On ne donnera pas des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas donner. On donnera que les choses qu'on peut donner parce qu'on dit « Ah bah oui, tiens, tu as besoin de ça, nous on peut faire ça ou je peux donner ce coup de main, je peux faire cela. » Mais d'essayer d'aller au-delà de la notion que tout a un prix, tout a une valeur. Mais ça, c'est donc un modèle un peu idéal. Après, dans les faits, pour payer les impôts, les charges, la nourriture qui est un peu notre dépense principale, la nourriture ici, parce qu'on est très loin d'être autonome et puis on a des envies, des désirs qu'on ne sait pas si un jour on arrivera à autonomiser complètement. Et à ce niveau-là, pour l'instant, on est en train d'y réfléchir. On n'a pas de modèle économique viable au niveau collectif. On a des modèles économiques personnels. Et concrètement, y a des personnes sur le lieu qui travaillent. Donc en général, c'est en ligne. On a la chance d'avoir des possibilités de travailler en ligne qui nous permet chacun de pouvoir avoir des revenus pour mettre en commun. On met en commun pour faire les courses. On met en commun pour payer. On paye tout en commun. On va dire qu'il y a des parties entre guillemets privées de la nourriture, des petits plaisirs ou des choses personnelles. Un pot de crème de sésame, du chocolat ou les fruits. Par exemple, pour l'instant, on n'a pas encore les fruits en partage pour que chacun puisse consommer librement ce qu'il veut. Enfin, on est en train de voir. Mais du coup, des personnes travaillent pour ça. D'autres personnes ont eu des héritages. D'autres personnes ont des sous de côté parce qu'ils ont travaillé, ils ont arrêté de travailler. Mais toutes ces personnes, enfin nous tous, on est en train de se, justement, pour ça je parlais de processus évolutif, on est en train de se demander comment est-ce qu'on arrive à avoir un système économique pérenne, collectif. Est-ce qu'on trouve le moyen, peut-être avec ce qu'on a acheté dans le village, on a acheté une maison et le projet qu'on va mettre en place, d'avoir une sorte de revenu qui nous permette aussi à nous juste de collectivement faire vivre le projet, toutes les personnes qui y sont. Avec une sorte de revenu universel où il y a même pas à réfléchir qui met quoi ou pas, c'est tiens, il y a un pot commun et il y a de l'argent qui tombe dedans et avec ça on subvient aux besoins. Donc ça, c'est en réflexion de comment est-ce qu'on arrive à ça. On sent aussi qu'on a besoin d'être un petit peu plus nombreux. C'est vrai que si on arrive à une douzaine de personnes, on commence à pouvoir, là on est à la limite 6-8 personnes dont 2 enfants, donc 6 personnes, 6 adultes sur le lieu pour gérer 3 hectares, le jardin, les constructions, la rénovation et l'accueil de personnes, tout ça c'est juste. Donc c'est vrai qu'on aurait besoin de doubler cette capacité pour pouvoir peut-être entrevoir un modèle plus fonctionnel d'économie du don ou d'économie du partage.
À être autonome. C'est important de dire aussi que tout ce que Ben vient de dire sur l'organisation, c'est aussi éphémère et en constante évolution. Donc moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vous ne faites pas une fixette sur une façon d'organiser votre collectif. Parce que c'est une fois de plus un processus de co-création. Et si les gens se sentent impliqués dans ce processus-là, ça va marcher.
Mais il y a une chose qui est, je dirais, qui reste constante là-dedans, en tout cas, je pense qu'on valorise, qui sort de la communication non violente ou de la théorie sur le Compassion Course. Il y a aussi une personne très intéressante aux États-Unis qui parle de ça, sur cette nécessité au niveau personnel, dans un couple ou aussi dans un collectif, d'avoir cet espace pour pouvoir exprimer ses besoins et se sentir entendu et vu par les autres. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir plein de systèmes, mais on se rend compte que si on n'a pas cet espace-là, genre si pendant une semaine il n'y a pas de réunion, ça pourrait être autre chose, mais et que du coup une personne peut ne pas se sentir écoutée, vue, entendue, là ça peut commencer à cristalliser des choses. Donc il y a vraiment cette nécessité d'avoir un espace temporel ou de lieu, quelque chose qui existe quand même assez fréquent pour pouvoir sentir qu'on peut être écouté, qu'on peut être entendu, qu'on peut exprimer ses besoins. Et ça, c'est nécessaire.
Il y a une phrase que j'ai retenue, « Vivons simplement pour que tous puissent simplement vivre ». Est-ce que tu en aurais une autre ou quelque chose que tu veux d'impactant, que tu as envie de partager, une idée forte portée par Eutopia?
Oui, alors moi « Vivre simplement pour simplement laisser vivre », c'est ma phrase totem. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir autre chose. Il y en a plein. Il y a « This will also change », non ?« Ça aussi, ça changera
». Tout est éphémère, ouais, en français.
Voilà, rien n'est permanent sauf l'impermanence. Ouais, accueillir, acceptons, embrassons, se mettre à nu, célébrer.
Ouais.
On adore recevoir du monde, c'est juste qu'on a des périodes. Enfin voilà, en tout cas, on adore accueillir du monde. Il faut juste nous écrire avant, sinon on n'est pas content.
Est-ce que ça arrive? Bah oui, j'imagine aujourd'hui, vu que beaucoup de gens vont vers ce mode de vie alternatif, tu vas voir pas mal de gens qui débarquent comme ça à l'improviste.
Pas tant que ça, mais ça arrive. On a quelqu'un qui a fait 800 bornes depuis l'Allemagne pour venir un jour. Et si nous, vu qu'on est dans cette écoute des besoins, si nous, on se sent pas disponible, eh ben, on va pas faire de compromis. Ah non, on n'est pas disponible pour te recevoir. On n'est pas disponible pour passer du temps avec toi. C'est dommage. Donc, par contre, c'est très simple d'écrire un petit mail. Et nous, là, on peut se rendre disponible. Ah bah tiens, oui, telle date, telle bienvenue. Donc ouais, faut juste nous écrire, mais on adore avoir du monde. Voilà.
Merci. La Voix des Oasis, c'était Eutopia avec Pierre et Benjamin Le Sage. Eutopia, une communauté végane où l'on vient bâtir le monde de demain.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.